vraiment eu une très très bonne réunion hier avec les jeunes. Pour ceux qui ne sont pas au courant, hier soir, les jeunes, ils se sont rendus à Charleroi pour une plateforme jeunesse. C'est un événement inter-club qui est organisé par l'église de Namur, le TPE. Et il y avait 7 groupes de jeunes hier soir qui étaient réunis ensemble pour entendre un message de la part de Dieu, pour entendre ce que Dieu veut dire dans leur vie. Ils ont entendu un très beau message du pasteur Jeff Stout qui travaille pour l'Alliance Pentecôtiste Européenne. Et c'était vraiment encourageant de voir tous ces jeunes comprendre qu'ils vont avoir un impact pour leur Belgique et pour l'Europe. Amen. Le message de cet homme, c'était de dire que les jeunes, ils vont avoir un impact pour l'Europe. Moi, je pense que c'est pas seulement les jeunes qui vont avoir un impact, mais également nous tous ici. Est-ce qu'on peut dire aussi amen à ça? Amen. Alors, je voudrais bien parler des dons spirituels. Plus particulièrement, des dons spirituels dans nos vies. S'il fallait trouver un nom pour cette prédication, je l'ai appelé Christ en moi, l'espérance de la gloire. On aura l'occasion d'entendre un témoignage et un partage de Marin Dugas, que je présenterai après, qui va également, je suis être très encourageant, mais je voudrais introduire, en nous rappelant ici qu'on sait tous qu'on est tous enfants de Dieu, j'espère. On est en Wallonie, pour moi qui est la Wallonie profonde, peut-être pour certains d'entre vous ce n'est pas aussi loin que ça, mais pour moi qui viens plutôt du côté de Bruxelles, ça me semble un peu loin. Et j'avais pris il y a quelques temps quelques points pour un peu démontrer que la Wallonie c'était un champ missionnaire. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais je vais essayer de le rappeler ce matin. L'œuvre qu'on est appelé à faire en Belgique, c'est une œuvre missionnaire. Elle a donc les défis de la mission. J'avais pris l'image, imaginons que quelqu'un part en Afrique, on va dire Valentin, imaginons, tu pars en Afrique, vers des tribus étrangères, des tribus hostiles à l'évangile. Quelles seraient les difficultés que Valentin rencontrerait? Les gens et le sol sont hostiles à sa venue. Les gens et le sol sont hostiles à sa venue. Eh bien, essayez d'aller parler aux gens de Dieu dans la rue. Et regardez un petit peu la réaction des gens. Est-ce que vous êtes accueillis avec des grands bras lorsqu'on parle de foi? Il y a beaucoup de chrétiens. Il n'y a pas beaucoup de chrétiens, donc le missionnaire, ici Valentin, il est seul. Alors quand on regarde les chiffres qui sont les caractéristiques de la Wallonie, on peut voir que ça a été surnommé par l'Église catholique le cimetière des missionnaires. Cimetière des missionnaires. C'est assez terrible comme nom, ça, que l'Église catholique ait dit ça. C'est parce que toute leur présence, tout leur clocher, leur église, elles ont fermé l'une après les autres dans les petits villages de Wallonie. Ça ressemble très fort au terrain missionnaire de Valentin. Une autre chose que notre ami Valentin devrait faire, je suis désolé, toute l'attention est sur toi maintenant. Une autre chose, c'est qu'il devrait lutter contre des choses spirituelles. Si tu vas dans une tribu étrangère, il y a probablement un docteur sorcier qui va utiliser des choses qui sont parfois occultes pour peut-être soit qui part d'un bon désir ou parfois même d'un mauvais pour contrôler les gens. Mais il y a des choses occultes contre lesquelles on doit lutter. Comment ne pas reconnaître la Belgique dans ce champ missionnaire? Comment ne pas voir l'hostilité des gens? Et c'est pas une hostilité qui est un acharnement, c'est parce que les gens ne savent pas, ils ne comprennent pas l'amour de Dieu. On est plus ou moins 0,6% de chrétiens en Belgique, et je ne compte pas l'Église catholique parce que ce n'est pas toujours pas facile à voir. Et quand je dis chrétien, je parle des gens qui ont rencontré Dieu personnellement, qui ont une relation vivante avec Jésus. Nous devons donc nous équiper de foi pour être des ouvriers efficaces et revêtir l'armure du chrétien. Si on désire avoir un impact. Ça, je me rappelle en avoir parlé. J'avais lu Éphésiens au chapitre 6, versets 10 à 20. Hein. Je vais le relire vite. Enfin, mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons lutté, mais contre des puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde des ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les jours mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez autour de votre taille la vérité en guise de ceinture, enfilez la cuirasse de la justice. Mettez donc comme chaussure à vos pieds le zèle pour annoncer l'évangile de la paix. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du mal. Faites aussi bon accueil au casque du salut et à l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et en priant pour tous les saints. Amen. Le champ missionnaire. C'est pour cette raison que nous devons utiliser tout ce qui est dans notre arsenal pour résister face à l'œuvre de l'ennemi. Non pas parce qu'on avait peur de l'ennemi ou parce qu'on va devenir des chrétiens paranoïaques qui ont un petit peu peur de tout, qui voient des esprits partout. Ce matin, quelqu'un disait, ouais, si tu commences à traîner avec des, si tu commences à passer du temps avec des chrétiens, parfois tu entends des choses bizarres. C'est vrai, quand il y a certains chrétiens, ils ont peur de tout. Ils ont peur de sortir chez eux, ça devient de l'animisme. On voit un esprit derrière chaque chose. Non. C'est pas comme ça, la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est une marche de victoire. On a la victoire sur ces choses-là. Mais c'est pas pour ça qu'on ne doit pas se préparer à la bataille. Les endroits dont je parle, où on doit avoir la victoire, ça peut être des endroits spirituels ou géographiques. Géographiques, car il n'y a pas encore de présence chrétienne dans toutes les communes de Belgique, mais aussi spirituels, car lorsqu'on prêche Christ autour de nous, le cœur des gens, ça c'est bien un lieu spirituel. Tout le monde n'appartient pas encore à Christ. Nous sommes en terrain ennemi, en champ de mission. Regardons alors ce que la parole de Dieu va nous dire, et je nous encourage chacun à lire ici le texte dans Colossiens 1, au chapitre 1, à lire cette lettre de Paul, comme si Paul s'adressait à Boisdevillers. Moi, Paul, je suis apôtre de Christ, Jésus, parce que Dieu l'a voulu. Avec Timothée, notre frère, j'écris à ceux qui appartiennent à Dieu et qui sont à Colosse, nos frères et nos sœurs qui croient en Christ. Que Dieu, notre Père, vous bénisse et vous donne la paix. Nous remercions toujours Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus, quand nous prions pour vous. Oui, voici ce que nous avons écrit. Vous croyez au Christ Jésus et vous aimez tous ceux qui appartiennent à Dieu. En effet, vous espérez ce que Dieu a préparé pour vous dans le ciel. Quand la bonne nouvelle, qui est la parole vraie, est arrivée chez vous, elle vous fait connaître cette espérance. Cette bonne nouvelle donne des résultats et se développe aussi dans le monde entier. Chez vous, c'est la même chose depuis que vous avez entendu parler de la bonté de Dieu, depuis que vous avez vraiment compris que Dieu vous aime. Alors ici, on a l'église de Colosse, qui est pris comme exemple, comme une église qui a entendu le message de Jésus et qui continue à y croire et qui continue à l'aimer. Est-ce qu'on pourrait pas prendre ce message pour nous ce matin? Alors, Epaphras, qui est notre ami et qui travaille avec nous, vous a enseigné cela. Il nous remplace auprès de vous comme un fidèle serviteur du Christ et il nous a fait connaître l'amour que l'Esprit Saint a mis en vous. C'est pourquoi nous aussi, depuis que nous connaissons ces nouvelles, nous prions sans cesse pour vous et nous demandons à Dieu de vous donner toute la sagesse et l'intelligence qui viennent de l'Esprit. Ainsi, vous pourrez connaître entièrement ce qu'il attend de vous. Vous pourrez vivre comme le Seigneur le veut et faire tout ce qui lui plaît. Vous accomplirez toutes sortes d'actions bonnes et vous connaîtrez de Dieu de plus en plus. Nous demandons à Dieu de vous donner toute la sagesse et l'intelligence qui vient de l'Esprit. Les conséquences de l'Esprit de Dieu, c'est ce qui est cité juste après. Vous accomplirez toutes sortes d'actions bonnes et vous connaîtrez Dieu de plus en plus. Sa puissance magnifique vous rendra fort. N'est-ce pas une promesse incroyable? Alors vous résisterez et vous supporterez tout avec patience. Pour ceux qui sont dans des circonstances un petit peu plus difficiles, c'est l'Esprit qui vient nous fortifier. C'est l'Esprit qui vient affirmer en nous cette force céleste. Avec joie, remerciez le Père, il vous a rendu capable de recevoir les biens qu'il garde pour ceux qui lui appartiennent dans le royaume de la lumière. Il nous a arrachés au pouvoir de la nuit et il nous a fait passer dans le royaume de son Fils très aimé. Par ce Fils, nous sommes libérés, nos péchés sont pardonnés. Le Christ est l'image de Dieu qu'on ne peut voir. Il est le Fils premier-né au-dessus de toutes les choses créées. En effet, c'est en lui que Dieu a tout créé, dans les cieux et sur la terre. Les choses qu'on voit et celles qu'on ne voit pas, les forces et les esprits qui ont autorité et pouvoir, tout est créé par lui et pour lui. Le Christ existe avant toute chose et tout ce qui existe ne tient que par lui. C'est lui qui est à la tête du corps, c'est-à-dire l'Église. Il est le commencement, celui qui est. Le premier s'est levé de la mort pour être le premier de tous, toujours et partout. Oui, Dieu a voulu habiter totalement dans son Fils et il a voulu tout réconcilier avec lui. Par son Fils et pour son Fils. Par le sang que son Fils a versé sur la croix, Dieu a fait la paix sur la terre et dans les cieux. Vous, autrefois, vous étiez des étrangers pour Dieu, vous étiez ses ennemis. En effet, vous pensiez à faire le mal et vous le faisiez. Mais maintenant, Dieu vous a réconcilié avec lui par la mort de son Fils qui a souffert dans son corps humain. Alors vous pouvez vous présenter devant Dieu en étant saint, pur et sans faute, mais vous devez rester solide et fort dans la foi. Ne vous les éloignez pas de la bonne nouvelle, elle est notre espérance. Vous l'avez entendue, on l'a annoncée à tout ce qui existe sous le ciel, et moi, Paul, je suis devenu le serviteur de cette bonne nouvelle. Cette église qui était à prendre en exemple comme une église qui avait entendu la parole de Dieu et qui continuait, qui aimait le Seigneur, qui faisait l'œuvre de Christ. Paul veut les encourager, Paul veut leur amener quelque chose en plus pour continuer à supporter les difficultés. Et il dit que le thème de cette prière, c'est que les gens puissent recevoir l'Esprit, que l'Esprit puisse leur donner, que l'Esprit puisse les aider à accomplir de nouvelles choses, de nouvelles bonnes actions, d'être guidés, et que dans les moments difficiles qui vont arriver, je rappelle que être chrétien, ça ne veut pas dire être immunisé de la souffrance, mais ça veut dire bien avoir une aide surnaturelle quand on souffre. Amen. Eh bien, lorsqu'on est en souffrance, lorsqu'il y a des moments difficiles dans la vie, on peut compter sur cet Esprit. Je me rappelle avoir toujours été très encouragé par des témoignages de chrétiens qui vivent dans des pays persécutés. Si je prends comme exemple un pays assez classique qui est la Corée du Nord, j'entends ces histoires de pasteurs, de leaders, de chrétiens qui sont absolument cachés. S'ils parlent de leur foi, ils sont tués ou mis en prison dans des camps qui se rassemblent assez fort, des camps de concentration de la Deuxième Guerre mondiale. Ce sont des gens qui sont persécutés pour leur foi. Et très étonnamment, ces gens-là, ils ne parlent pas de partir. Ils ne parlent pas de fuir le pays. Ce qu'ils disent aux chrétiens, c'est prier pour que les choses changent. Ils se sentent tout à fait faisant partie de la Corée du Nord. Mais ils continuent l'œuvre de Christ là-bas. Comment ne pas être absolument et complètement encouragé par ces gens-là qui, dans leur foi est solide, elle est mise à l'épreuve, mais pourtant ils tiennent bon. Alors ici, nous, dans le monde occidental, on a d'autres formes de souffrance, parfois qui ne sont pas comparables. Mais c'est pas pour ça que la souffrance n'est pas là. Paul nous parle de souffrance et dit « Maintenant, je suis heureux de souffrir pour vous. En effet, dans mon corps, je continue à participer aux souffrances de Christ, pour son corps, c'est-à-dire pour l'Église. Je suis devenu le serviteur de l'Église pour faire le travail que Dieu m'a demandé. Je dois vous annoncer la parole de Dieu tout entière. Cette parole, c'est le mystère caché à toutes les générations depuis toujours. » Maintenant, Dieu l'a montré clairement à ceux qui lui appartiennent. Il a voulu faire connaître la grandeur de ce mystère et sa richesse pour tous les peuples. Ce mystère, voici, le Christ est au milieu de vous, et par lui vous espérez participer à la gloire de Dieu. C'est ce Christ que nous annonçons. Nous donnons à chacun des conseils et un enseignement avec toute la sagesse possible pour que tous deviennent adultes dans le Christ. C'est pourquoi je travaille et je lutte avec force du Christ qui agit en moi avec puissance. Le Christ est au milieu de vous et par lui vous espérez participer à la gloire de Dieu. Le Christ en moi, l'espérance de la gloire. Nous sommes les réceptacles de la gloire de Dieu. Lorsque Moïse s'est approché de Dieu dans l'Ancien Testament, lorsqu'il a reçu les décollements, les gens ne pouvaient pas le regarder parce que la gloire de Dieu se reflétait sur son visage. Et cette gloire s'est éteinte au fur et à mesure du temps. Et Paul prend ce passage en exemple dans 2 Corinthiens 3, pour nous dire, la gloire que Moïse avait sur son visage, elle est venue à cause de la loi. Elle est venue parce que Dieu révélait le standard qu'il fallait atteindre pour être à son niveau. Et évidemment, personne ne pouvait l'atteindre. Et il dit juste que, imaginez la gloire que Moïse avait avec cette loi qui amenait la mort. Imaginez la gloire que vous avez avec ce Jésus qui amène la vie. Jésus qui vit en vous. Il est cette espérance de gloire. Nous sommes des réceptacles de gloire, nous sommes des êtres glorieux. Ça semble un petit peu difficile à dire, difficile à comprendre, parce qu'on va dire, oh, tu sais, quand je me lève ce matin, j'ai pas l'air très glorieux, hein. Enfin, peut-être pour certains d'entre vous plus que pour moi, mais quand je regarde mes cheveux, ça ne va pas. Mais non, ce que je veux dire, c'est que le message que Christ a mis en nous, l'esprit que Christ a mis en nous, c'est un message de gloire, c'est une espérance de gloire. Et la clé de tout ça, Paul nous encourage, c'est l'esprit. Paul nous rappelle le ministère que nous avons reçu en tant que chrétiens et l'immense privilège et honneur de savoir, nous les saints, de l'œuvre de Christ. Nous sommes complètement et entièrement acceptés en Dieu. Paul veut nous rappeler la plénitude de Christ en nous, une espérance de gloire. Christ est la promesse et l'accomplissement de la gloire de Dieu en nous. Si dans l'Ancien Testament, le peuple d'Israël avait besoin d'une séparation entre Dieu et eux parce que Dieu était trop saint, plus maintenant pour nous, la puissance et la gloire de Dieu habitent en nous, celui qui a reçu Christ. Alors, peut-être on se sent pas digne de ces choses-là. Mais je voudrais rappeler à la personne qui peut-être se sent pas digne ou se sent pas très glorieux aujourd'hui que quand on reçoit Christ, il y a cette vérité, il y a cette gloire en nous. On peut choisir d'en être digne. On peut choisir d'agir dans cette gloire, de profiter de cette gloire. Je vois bien un peu passer dans la pratique et réfléchir quels sont nos outils pour nous les saints. Nous sommes dans notre champ missionnaire et nous devons être prêts à affronter des situations sous pression. Quand je parle de cela, on ne croit pas toujours, mais je vous l'affirme, si tu veux avoir une influence en tant que chrétien, tu vas devoir entrer dans la totalité de l'identité que Christ, que Jésus a pour toi. Il va falloir croire tout ce que Jésus dit sur toi. Voici une liste pratique donnée par l'Esprit pour aider l'Église. On va prendre 1 Corinthiens, chapitre 12. Frères et sœurs, au sujet des dons de l'Esprit-Saint, je ne veux pas que vous restiez ignorants. Autrefois, vous ne connaissez pas encore Dieu, vous le savez, vous étiez entraînés vers les faux dieux qui ne parlent pas. Vous ne pouviez pas leur résister. C'est pourquoi je veux vous faire savoir une chose. Si quelqu'un parle avec l'aide de l'Esprit de Dieu, il ne peut pas dire que Jésus soit maudit. Et sans l'aide de l'Esprit-Saint, personne ne peut dire Jésus est le Seigneur ou Jésus est Dieu. Oui, il y a des dons différents, mais c'est le même Esprit qui les donne. Il y a des façons de servir différentes, mais on sert le même Seigneur. Il y a des activités différentes, mais c'est le même Dieu qui les produit tous, tout en tous. Chacun reçoit le don de montrer la puissance de l'Esprit-Saint, et cela pour le bien de tous. L'un reçoit de l'Esprit le don de parler avec sagesse, l'un reçoit du même Esprit le don de savoir des choses qui viennent de Dieu. Un autre reçoit de ce même Esprit le don d'une foi très solide. Un autre reçoit cet unique Esprit le don de guérir les malades. Un autre peut faire des actions extraordinaires, parler au nom de Dieu. Un autre sait faire la différence entre ce qui vient de l'Esprit-Saint et ce qui vient pas de lui. Un autre peut parler des langues inconnues et un autre peut les traduire. Mais tout cela, c'est le seul et même Esprit qui rend possible. Il distribue ses dons à chacun comme il le veut. Les dons spirituels sont annoncés du verset 8 à 10. Il donne à l'un une parole pleine de sagesse, à un autre le même Esprit donne une parole chargée de savoir. L'Esprit donne à un autre d'exercer la foi d'une manière particulière. À un autre, celui de guérir les malades. À un autre, il donne de faire des miracles. À un autre, soit une activité prophétique. À un autre, le discernement de ce qui vient de l'Esprit divin. Ici, quelqu'un reçoit la faculté de s'exprimer dans des hommes, dans les langues d'hommes inconnues. Il est donné à un autre, celui d'interpréter ces langues. Mais tout cela est l'œuvre d'un seul et même Esprit qui distribue son activité à chacun de manière particulière comme il veut. Ce que j'ai toujours trouvé extraordinaire avec Dieu, c'est qu'il marche dans le respect et dans l'acceptation de chacun. Dieu nous a créés chacun avec notre personnalité, avec nos qualités, et nous on a fait nos défauts. Mais Dieu nous a créés avec des choses en nous. Et il y a aussi des choses spirituelles qu'il nous a données. Est-ce que vous croyez ça ce matin? Dieu a mis en nous des choses spirituelles qu'il veut qu'on puisse utiliser. Si quelqu'un a un don artistique, si quelqu'un se met à jouer du piano et on trouve qu'il joue bien, on va l'encourager dans ces choses-là. On a eu Léa qui nous a fait une très très belle louange ce matin avec au piano. On va encourager les artistes à pouvoir exercer leur art et à devenir de mieux en mieux avec. De même, à n'importe quel type de métier, on va prendre la même image et on va dire si tu veux être forgeron, eh bien forge. Si tu veux être menuisier, eh bien apprends le bois, commence à aller sur des chantiers. On s'entraîne à ces choses-là. Est-ce que nous, on ne pourrait pas ça prendre comme un principe spirituel? Nous sommes équipés d'outils pratiques, des outils spirituels. Et tu sais que parfois l'Esprit peut te partager une parole sur le passé, le présent ou le futur. L'Esprit, il peut même t'encourager à avoir une foi sans limite et surnaturelle. Peut-être quand on lit ce texte, on est un petit peu confus, je voulais mettre des exemples. L'Esprit peut nous partager une parole sur le passé, le présent et le futur. Parfois, on voit quelqu'un et il y a quelque chose qu'on sait sur sa vie, on n'est pas censé le savoir. Ça, c'est l'Esprit qui vient nous dire quelque chose et il ne dit pas juste ça pour le plaisir de le dire. Hein. C'est parce qu'il veut qu'on ait un ministère envers cette personne. Il veut qu'on puisse bénir cette personne, que ce soit à travers la prière, à travers une action pratique. Je me rappelle cet ami qui a été très malade. Un jour, je crois que je vais lui demander de témoigner. Il s'appelle Alexandre et son nom de famille, c'est De l'Église. Je trouve ça assez amusant. Il veut être pasteur, le pasteur de l'Église. Alexandre, quand il avait 18 ans, il a été diagnostiqué avec une maladie vraiment grave. Une maladie qui était orpheline, c'est ça, qui est marquée dans son ADN. En gros, son corps, les globules blancs de son corps attaquaient... tous ces cartilages. Il avait plus de cartilage partout. Un des symptômes de cette maladie, c'était le fait qu'il y avait une polyarthrite à 20 ans absolument développée. Il allait finir en chaise roulante. C'est un artiste, il joue de la guitare, il joue du piano, il joue plein d'instruments. Et il m'a dit, quand il m'a raconté, au moment où on m'a dit ça, moi j'ai su que Dieu, il allait me guérir. Jamais douté, à un moment donné. Ça, c'est l'esprit. Ça, c'est l'esprit qui donne une foi surnaturelle. Moi, et il a dit, les médecins, ils me disaient que j'étais malade. Moi, non, j'étais guéri. Dieu va me guérir. Et je me rappelle ce moment où il me partage qu'à un moment donné, il prenait sa guitare et commence à jouer, mais il n'arrive plus à faire ses notes parce que il savait plus serrer ses mains plus que ça. Et il dit, Seigneur, le moment est venu. Moi, je crois que tu m'as guéri. Peu importe ce que tu fais avec moi, moi, mon but, c'est de te servir. Amen, quelle belle prière. Et ce qu'il a fait, c'est un petit peu fou. Il a arrêté de prendre ses médicaments. C'était des médicaments contre la douleur. Hein. C'était pas des médicaments qui traitaient. Hein. C'était juste contre la douleur. Il a arrêté de prendre ses médicaments et il est arrivé chez son médecin. Et le médecin fronce les sourcils. Il va voir dans la salle d'attente. Et il demande, comment est-ce que t'es arrivé ici? Ben, par les escaliers. Ben non, mais je blague pas. Comment est-ce que t'es arrivé ici? Ben oui, par les escaliers. Il y a personne qui t'a aidé? Non. Et elle est où ta chaise roulante? J'en ai pas. Le médecin trouve ça bizarre. Écoute, on va refaire des tests. Alors, 3 mois plus tard, après la batterie de tests qu'il a repris, il arrive chez le médecin. Le médecin le voit arriver. Alors, Alexandre va beaucoup mieux. Il a repris toutes ses activités artistiques. Il continue à servir le Seigneur. Et le médecin le voit, lui demande de s'asseoir. Il prend le dossier et il le jette sur son bureau. Et dit, écoute, je ne comprends rien. J'ai montré ton dossier à 5 collègues. Ils disent tous qu'avec tes résultats, tu devrais être en chaise roulante. Mais tu es là devant moi, je ne comprends rien. Alors Alexandre, il me dit, moi je comprends. Donc Alexandre, au jour d'aujourd'hui, il est toujours malade, mais c'est un gars qui est vraiment en forme et qui continue à faire tous ses instruments. Ça, c'est le don de foi. C'est l'esprit qui lui a donné un don de foi pour passer cette épreuve. Quand des circonstances difficiles vont arriver dans la vie, Dieu, il va t'équiper avec son esprit pour pouvoir les surmonter. Un esprit donne de guérir les malades, évidemment. Imagine, tu vas prêcher la bonne nouvelle de Christ dans la rue. Tu peux être confiant que s'il y a quelqu'un qui a une maladie, qu'il y a quelqu'un qui a une douleur, Christ, il a pris ça à la croix, à travers son corps. On peut prier, Seigneur, viens intervenir, viens te révéler dans la vie de cette personne-là. Un autre va exercer des miracles, une activité prophétique, un autre le discernement de ce qui vient de l'esprit. Le prophétique, on connaît tous, c'est ces paroles d'encouragement qu'on a, eu. Jacques Lemaire qui était venu il y a un petit temps pour nous partager cela. Le discernement des esprits est parfois difficile à comprendre. Moi, j'aime bien le mettre, ça semble un peu bizarre, mais comme un 6e sens spirituel. Tu vas quelque part et tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Une intuition, quelque chose en toi qui... Lorsque cette personne-là est en train de dire, je sais pas pourquoi, c'est pas logique, mais l'esprit de Dieu en moi, ça me gêne. Il y a une gêne. Ça, je pense que c'est l'esprit qui essaie de nous révéler des choses. L'esprit nous a donné des outils pratiques pour pouvoir vraiment être équipés dans nos vies chrétiennes. C'est notre responsabilité de les utiliser. Tu peux parler des langues inconnues ou les interpréter. Au début de l'Église, au temps des Actes des Apôtres, quand les apôtres ont commencé à parler en langue, c'était souvent des langues connues d'hommes qui venaient de, je sais pas moi, de Grèce, d'Asie mineure, d'un peu partout. Et quand les apôtres parlaient en langue, ils parlaient cette langue, ils ne la connaissaient pas, mais ils commençaient à parler grec, ou ils parlaient une autre langue, je ne sais plus les langues de l'époque, et ça permettait aux gens de donner leur vie à Jésus, c'était assez extraordinaire. Et le fait que, un petit peu après ça, il y a une partie de l'Église qui a arrêté de parler en langue, parce qu'elle pensait qu'elle ne devait parler en langue que quand c'était une langue réelle. C'était assez intéressant. Et Paul, lui, cite cette langue comme la langue des anges. La langue des anges, c'est beau, ça sonne bien. C'est une langue inconnue. C'est une langue qu'on prononce avec foi par l'esprit et qui fortifie, qui édifie. C'est quelque chose de très mystérieux, le parler en langue. Et bien sûr, évidemment, dans l'assemblée, Paul, il encourage les gens à laisser place à la parole prophétique en premier parce que cette parole est là pour bénir les gens. Amen. Alors, je voulais illustrer, j'ai déjà beaucoup parlé, hein, je voulais illustrer ce passage de façon pratique. Et j'ai demandé l'intervention de quelqu'un qui veut travailler vraiment dans la plénitude des outils que Dieu lui a donnés. Il a eu l'occasion de partager quelque chose aux jeunes il y a une semaine et demie, je crois, il y a 2 semaines. Et les jeunes ont été très bénis, ils l'ont tous dit. Donc je vais vous introduire Marin. Marin Ducasse, c'est un jeune homme qui a décidé de vivre complètement pour Christ, et il veut pas regarder à son âge ou à son titre pour parler aux gens de Jésus, mais il a juste le désir de voir des gens rencontrer Dieu. Et pour moi, ça, c'est la plus belle qualification au service. Donc, il va nous partager un petit témoignage et ce que Dieu a mis sur son cœur, et puis je continuerai. Amen.
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 Merci. Je pose cela comme ça. Je pense que je peux... J'ai pas besoin de parler avec le micro, à la limite. Bonjour à tous. Je suis très, très content d'être ici, en tout cas. Je vais juste commencer. C'est Valentin, c'est ça, hein. Je pense que c'est pas un hasard que t'aies parlé de lui. Moi, quand je t'ai vu, la première fois que je t'ai vu, je me suis dit, lui, il y a un appel sur sa vie, quelque chose de puissant. Tu vas être amené à voyager, je pense. En tout cas, Dieu, il a envie de t'appeler, il a envie de quelque chose pour ta vie. C'est pas rien. Il t'attend au tournant, il t'attend quelque part. Il attend juste qu'une seule chose, c'est que tu te retournes, que tu le sautes dans les bras. Vraiment, je pense que tu vas aller dans les pays, je sais pas si c'est l'Afrique, j'en sais rien. Tu vas amener des gens à Jésus par ton témoignage à toi. Je sais pas où t'en es pour l'instant, mais fonce. J'espère que ça ne t'est découragé. Et Clémentine, je crois que je te l'ai déjà dit, mais je te vois avec des enfants et je te vois vraiment les encourager, les élever et leur montrer qu'ils ont été créés à l'image de Dieu et qu'ils sont des fois beaucoup plus spirituels que nous le sommes, les enfants. Amen. Merci. Moi, je vais vous témoigner vite fait un peu ma vie, vite fait, très très rapidement. Je suis né dans une famille chrétienne. J'ai jamais vraiment aimé aller avec mes parents à l'église. J'avais tort, mais bon, je m'en rendais pas compte. J'étais un peu dans une rébellion depuis. Enfin, quand j'étais petit, je m'en rendais pas compte. Et puis après, de mon adolescence jusqu'à mes 18 ans, j'ai 19 ans maintenant, 17, 18 ans, j'étais en rébellion. J'avais pas envie d'entendre forcément parler de Dieu. Enfin, je croyais en Dieu, mais c'était tout quoi. Enfin bref, j'ai rencontré aussi Juliette ici, et puis ça m'a amené aussi à retourner un peu vers Dieu. Mais c'est pas vraiment ça le clou de ma reconversion en quelque sorte. C'est l'année dernière au camp à Power Camp, c'est un camp en Suisse où là j'ai vraiment pu faire l'expérience de Dieu en fait. Et je pense que si on fait pas l'expérience de Dieu soi-même tout seul, une expérience, je pense que tout ce qui est écrit dans la Bible c'est suite à des expériences que les gens ont vécues avec Dieu. Et si on fait pas l'expérience de Dieu, on peut pas vraiment comprendre. On a beau entendre 2000 fois que Jésus nous aime, on le comprendra pas si on l'a pas vécu, on l'a pas senti. Et moi c'était ça qui me suis arrivé vraiment. Je l'avais entendu des milliers de fois que Jésus m'aimait, qu'il voulait ça, il voulait ci pour moi, il y avait un truc sur ma vie, je sais pas trop quoi. Mais je l'avais pas vécu, donc je le prenais pas pour moi et je m'en foutais. Et maintenant, depuis que j'ai fait cette expérience il y a un an, je sais qui il est. Je sais maintenant. Et ça, c'est juste par une expérience. Donc, moi, j'ai pas vraiment toujours été vécu toujours facilement. J'ai eu un père alcoolique et il est décédé il y a 2 ans et demi. Et donc, j'ai pas toujours non plus été très... je sais pas comment on dit ça, fleur bleue, c'est ça? Ouais, fleur bleue, j'ai pas toujours, la vie est belle et tout ça. Mais, au moment où j'ai fait cette expérience-là, tout a été changé dans ma vie, en fait. J'ai fait vraiment un virage à 180 degrés. Et puis, cet été, j'étais en France, en été, dans le sud de la France, et il y a une fille qui a prophétisé sur moi toute la semaine, vraiment. Je sais pas si vous savez plus ou moins ce que c'est la prophétie, mais elle a vraiment prophétisé sur moi et, ça m'a vraiment hyper encouragé. Et depuis, ben, elle a pas arrêté de dire qu'il y avait un appel et tout ça. Et depuis, ben, je lâche pas ça. Et je pense que c'est vraiment ça le clou de mon histoire, le fait que tout a changé. Ça fait 6 mois en fait que j'ai été baptisé cet été. Ça fait 6 mois que je considère que je suis vraiment converti, quoi. Donc voilà, ça c'est un peu vite fait mon témoignage. Donc moi, je voudrais aller juste vite fait dans Romains 8, versets 15, 16, 17. Donc c'est « Et vous n'avez pas point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba Père ». L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. » Donc ce verset... Je pense qu'il dit clairement, c'est le même verset que j'avais partagé aux jeunes il y a quelques temps. Je pense qu'il dit clairement qu'on est enfant de Dieu, tous. Il n'y a pas un qui est un peu moins enfant de Dieu, il n'y a pas un petit-fils de Dieu, il n'y a pas un cousin ou je sais pas trop rien. On est tous enfants de Dieu au même titre. Et même les non-chrétiens sont enfants de Dieu, c'est des enfants qui sont retrouvés, qui sont perdus. Mais ils sont aussi enfants de Dieu. Mais nous, on est enfants retrouvés de Dieu, donc il nous a donner notre héritage, en quelque sorte. Comme on dit là, on a tous reçu un héritage et on est tous co-héritiers avec Christ. Ça, c'est un truc de ouf que moi, je m'en rendais pas compte, mais tout ce que Jésus, il a reçu quand il était sur terre, quand il était pleinement homme, on l'a reçu la même chose, exactement le même héritage. Et ça, je pense que énormément de chrétiens ne marchent pas là-dedans. Je veux culpabiliser vraiment personne parce que moi-même, je marche pas là-dedans. Mais on a tous reçu un héritage de ouf, vraiment, avec lequel on peut faire ce que Jésus l'a fait. Et ça, pour moi, c'est vraiment hyper important. Donc, dans cet héritage, qu'est-ce qu'il y a? Enfin, ça s'appelle le salut aussi. Qu'est-ce qu'il y a? On a l'assurance de la vie éternelle. Ça, c'est la base. J'ai envie de dire, c'est, voilà, quand on est chrétien, on reçoit l'assurance de la vie éternelle. Ça, c'est clair et net. Mais c'est dommage de s'arrêter à là. Énormément de personnes s'arrêtent à là et voilà. Mais je trouve que c'est dommage de s'arrêter à là. On a reçu plus de choses. On a aussi eu la grâce, le fait que Jésus est mort à la croix et qui nous a lavé tous nos péchés, toutes nos maladies, toutes nos peurs, toutes nos condamnations, nos culpabilités, tout ça, ça a été lavé. On est plus censé, comme tu disais, la souffrance, ça fait partie de notre monde, mais normalement, on est plus censé, en quelque sorte, être malade, on est plus censé avoir peur, etc. Ça serait vraiment à la perfection. Je sais que c'est limite impossible. Enfin, c'est impossible. Même si Jésus, lui, il a eu peur, etc. Mais on est censé vraiment vivre comme Jésus. C'est l'exemple parfait. Moi, je dis toujours que c'est la théologie parfaite, Jésus. Si tu entends quelque chose que Jésus n'a pas fait, méfie-toi. C'est vraiment la théologie parfaite. Suivez vraiment l'exemple de Jésus. Moi, c'est vraiment le conseil que j'avais à vous donner. Suivre Jésus, ce qu'il a fait, etc. Et quand on voit Jésus, il a été baptisé du Saint-Esprit au début de son ministère, quand il a commencé son ministère. Une des premières choses qu'il a fait, c'est aller avec Jean-Baptiste et il a été baptisé d'eau et puis directement du Saint-Esprit, la colombe est descendue sur lui. Et je pense que c'est pas pour rien que la première chose que Jésus a fait, c'est être baptisé du Saint-Esprit. Donc, une dernière chose que je voudrais intégrer dans l'héritage, c'est le Saint-Esprit. Je pense qu'on peut rien faire sans Saint-Esprit. Souvent on néglige un peu trop le Saint-Esprit, il y aurait pas de terre sans Saint-Esprit, il y aurait pas de chrétien, il y aurait pas de Bible, il y aurait pas non plus de tout ça sans Dieu et sans Jésus, mais sans Saint-Esprit non plus. Et des fois, c'est vrai qu'il y a des charismatiques, il y a des personnes qui vont trop loin, qui font un peu n'importe quoi, qui deviennent bizarres, qui ont des manifestations et tout. Je pense qu'il y en a certains qui sont honnêtes, etc. Il y en a d'autres qui le sont moins. Mais le Saint-Esprit, faut pas le limiter à quelque chose. Faut pas le limiter non plus simplement à la parole. Je pense que c'est une personne de la Trinité, troisième personne de la Trinité, et on le reçoit automatiquement quand on devient chrétien. Donc quand on se convertit, on le reçoit, le Saint-Esprit. Mais après, on est baptisé par le Saint-Esprit. C'est-à-dire que il vient, en quelque sorte, on est rempli par le Saint-Esprit. Il vient activer tout ça, quoi. Le Saint-Esprit vient vivre en nous, et on l'a tous, le Saint-Esprit en nous. Il vit en nous. On est sa demeure, en fait. Quand on le reçoit, on est sa demeure. Et ça, je pense que c'est le Saint-Esprit, c'est vraiment le représentant. C'est le représentant de Dieu. Non, pas le représentant. C'est Dieu sur terre. C'est-à-dire que Dieu, le Père, il est en haut. C'est celui qui a toute autorité, qui en quelque sorte, il dirige le tout. Il y a Jésus qui est descendu sur terre et puis qui est retourné vers son Père et qui lui intercède. Et Jésus, voilà, c'est l'image de celui qui s'est fait homme et qui était en même temps Dieu. Et puis il y a le Saint-Esprit qui lui est descendu sur terre avec nous, en quelque sorte, dans nous, en nous, en chaque chrétien. Il s'est incarné en nous, en chaque chrétien. Et il a besoin de nous pour agir, en quelque sorte. Ça, c'est quelque chose d'incroyable que j'ai entendu il y a pas longtemps. C'est que le Saint-Esprit, il a besoin de s'incarner en nous pour agir. Il peut rien faire, il peut, c'est Dieu, ok, on est d'accord, mais il s'auto-limite en quelque sorte. Il peut rien faire sans nous. C'est-à-dire que si on veut guérir quelqu'un, nous, tout seul, on peut pas le faire, c'est impossible. Si on veut prophétiser pour quelqu'un, c'est impossible. On peut essayer d'inventer des trucs, machin, mais c'est impossible en quelque sorte. Ça vient de la psychologie et puis de la philosophie. Et le Saint-Esprit lui-même, s'il veut guérir quelqu'un tout seul, il peut pas le faire. Il a besoin de nous, de s'incarner en nous pour agir. Je pense que c'est encourageant de se dire que sans vous, il peut rien faire, en quelque sorte. Donc, il vous attend. Il vous a tout donné. Il vous attend au tournant, en quelque sorte. Il attend juste, mais, allez, maintenant, on rentre dans le truc, quoi. Allez, tu vois, cette personne, elle est malade. Moi, tout ce que j'attends, c'est que t'ailles vers lui et que tu lui dises, j'ai envie de te guérir parce que moi, c'est tout ce que je veux. Ça, c'est ça, cet esprit. C'est comme ça qu'il est bavard. Il vous parle tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il vous dit, lui, il est plutôt comme ça. Va lui dire ça ou encourage cette personne ou va prier pour lui. C'est ça, en fait. C'est pas compliqué, les dons spirituels. C'est ça, en fait. C'est simplement être en relation avec le Saint-Esprit. C'est ça, le point clé du Saint-Esprit, je pense que c'est une question de relation avec lui. Il faut apprendre à parler au Saint-Esprit, apprendre à être en relation avec lui, lui parler. Moi, j'essaye, le première chose que j'essaye de faire le matin, c'est de lui dire bonjour. Bonjour Saint-Esprit. Je sais pas si vous connaissez Benny Hinn, mais c'est ce qu'il faisait lui. Tous les matins, il disait bonjour Saint-Esprit. Et ça introduit la relation avec lui pour toute la journée. Et puis après, il a qu'une seule envie, c'est continuer à nous dire, ok, cool, maintenant on va faire ça. Et sous la douche, quand vous êtes, ça va vous paraître bizarre, mais quand vous êtes aux toilettes, quand vous faites la vaisselle, quand vous passez le balai, vous pouvez tout le temps être en relation avec lui, tout le temps, lui parler, lui dire qu'est-ce que t'en penses, quand vous faites une omelette, qu'est-ce que t'en penses de mon omelette. Ça, c'est vraiment s'appeler être dans la présence de Dieu. Ça, c'est pas simplement à l'église qu'on peut être dans la présence de Dieu. Tout le temps, avec le Saint-Esprit, lui parler et tout. Et je pense que ça, c'est vraiment la base des dons spirituels. C'est que, par cela, si vous avez cette relation avec le Saint-Esprit, les dons spirituels vont couler normalement, facilement, quoi. C'est pas quelque chose de difficile à faire, de surnaturel, incroyable, de miraculeux. Les grands prédicateurs, ils ont pas quelque chose de plus que vous. On a tous reçu la même onction. On a tous reçu le même Saint-Esprit. C'est juste que eux, ils ont appris à l'utiliser. Ils ont appris à l'activer. Ils ont appris à parler avec le Saint-Esprit. C'est pas plus difficile que ça. Faut pas dramatiser le truc. C'est pas compliqué, quoi. C'est vraiment pas compliqué. Jésus, elle n'a jamais enseigné quelque chose sur la guérison. Vous pouvez chercher dans toute votre Bible, il n'a jamais enseigné. Il a que agi. Il a que fait. Et les disciples ont regardé, ils ont fait, ok, c'est comme ça qu'on fait. Ils ont été très incrédules au début. Mais après, quand il est parti, qu'ils avaient reçu le Saint-Esprit, ils ont fait tout naturellement. Et Pierre, la première fois, il était très timide, Pierre, très réservé, la première fois qu'il a prêché, c'était devant des milliers de personnes. Juste parce que il avait reçu le Saint-Esprit. Et puis voilà, il avait été en relation avec une personne comme Jésus qui lui était complètement dépendant du Saint-Esprit. Et ça coulait de lui, quoi. C'était facile pour Jésus de, parce qu'il était en relation avec le Saint-Esprit. C'était comme, bien sûr que je vais te guérir parce que ça coule de moi, quoi. Donc je pense que faut pas dramatiser les dons spirituels. C'est pas vraiment le mot dramatiser, mais faire de quelque chose un truc de dingue, quoi. Je pense pas que c'est dingue. Je pense que, évidemment, c'est miraculeux, mais c'est la vie normale du chrétien. Voilà. C'est ça que je voudrais dire. On n'est pas des super-héros. On est normaux. Mais on a le Saint-Esprit qui, lui, est Dieu. Et Dieu, il vit tout le temps avec nous. Il est tout le temps là. Et grâce à lui, on peut devenir exceptionnel parce qu'on a Dieu en nous. On peut participer à la divinité. On peut guérir des gens. On peut prophétiser. Parle de connaissance. Tout ce que le diable, en fait, essaie de recopier dans tout ce qui est New Age, etc., avec les médiums, etc., nous, on peut le faire, mais réellement. Et ça, c'est vraiment quelque chose, j'insiste là-dessus. Maintenant, je voudrais juste terminer par dire que les dons spirituels, ça ne sert que l'amour. C'est un service à l'amour. C'est-à-dire que tout ça, il y a un verset, je crois, dans 1 Corinthiens 14, je crois, la première chose qui est dit, c'est rechercher la charité, rechercher l'amour. Et puis après, aspirer aux dons spirituels. La première chose qu'on doit faire, c'est vraiment l'amour. Va jamais prophétiser pour une personne si c'est pour le détruire. Dieu, jamais il donnera une parole pour détruire quelqu'un ou pour décourager quelqu'un, etc. Je pense que c'est pas ça. Les dons spirituels, c'est pour l'amour. C'est pas pour tout remettre l'attention sur soi, c'est pas pour dire, ouais, vous voyez, moi, je suis mieux que vous, etc. Non, de toute façon, toute la gloire revient à Dieu. Sans Dieu, tu peux rien faire. Mais c'est vraiment un service à l'amour. Quand on voit la prophétie, c'est pour l'encouragement, c'est pour l'édification, l'exhortation, la guérison. Je pense que ça paraît clair. C'est pour guérir la personne, qu'elle se sente mieux. Opérer des miracles, ça, c'est aussi pour l'amour. Quand on voit Jésus qui a changé l'eau en vin, c'était pour que les gens passent un bon moment et qu'ils aient du vin et pas de l'eau. Ça paraît bête, mais ça peut paraître très bête des fois aussi, les dons, mais c'est pour l'amour, quoi. Donc moi, c'est vraiment la parole que je voulais vous partager. Ayez une relation puissante avec le Saint-Esprit, constante, seconde après seconde, comme disait le pasteur, 24 heures sur 24, 100% être avec Dieu, tout le temps, et commencez vraiment à marcher avec ce que vous avez reçu. Vous avez tous reçu le même pack, le même héritage, la même onction. Ne dites pas, lui, il a été favorisé. Non, c'est pas vrai. Personne n'a été favorisé. On a tous reçu la même chose. Donc, je pense qu'on parle toujours de réveil et d'impact, etc. Mais si j'avais envie de vous dire un truc à vous tous, l'impact, ça commence par vous-même. Commencez à impacter vous-même avec le Saint-Esprit. Le réveil, ça commence par vous-même. Commencez à vous réveiller. Je vous assure que lorsque vous allez commencer à vous réveiller vous-même et aller guérir les malades dans la rue, chaque fois que moi je vois un malade dans la rue, je peux pas m'empêcher d'aller prier pour lui. C'est impossible. Je peux pas voir une personne malade dans la rue sans prier pour lui. Commencez à faire des bêtes, des trucs comme ça. Et je vous assure que le réveil, ça va foncer, quoi. Ça va foncer. Dans l'avion, je sais pas si vous, moi, j'ai juste un petit témoignage avant de terminer. J'étais dans l'avion à côté du coach de l'équipe de Suisse de rugby. Et donc il était très imposant, etc. Mais il avait une prothèse à l'épaule, et il pouvait plus bouger son bras, c'est genre comme ça, limité comme ça. Donc il faisait son fort et tout, il avait, enfin, le mec il parle et tout, ouais, je suis coach de rugby et tout. Mais il avait cette prothèse qui le gênait, et puis moi j'osais pas lui dire, mais moi si tu veux je peux prier pour ton épaule, qu'est-ce, tu vas être guéri et tu seras libéré de ça. Et j'osais pas parce que j'avais cette peur de me dire, ouais, il va me prendre pour un fou, etc. Parce qu'on a souvent cette peur-là. Puis lui il dormait après. Et puis je me suis dit, bon, bah, Saint-Esprit, si tu veux que je prie pour ce gars-là, maintenant tu me donnes l'occasion, parce que moi je suis pas non plus un super-héros. Et à ce moment-là, il y a eu une annonce dans l'avion, ça l'a réveillé, il m'a regardé, il a commencé à me parler. Et moi là, je me suis dit, ok, c'est bon, je prie pour lui, j'ai prié pour son épaule, puis il a fait comme ça. Il a bougé son épaule comme ça, puis il m'a regardé comme ça, il a reculé dans son siège, il s'est dit, oula, lui, il est fou. Et puis il pouvait bouger son épaule, et j'ai rien fait de particulier, j'ai juste prié pour lui. Et sa prothèse, elle avait juste fondu. Je sais pas ce qui s'est passé. C'est Dieu qui a guéri ça. J'en sais rien, moi. Mais il pouvait bouger son épaule, quoi. Après, j'ai pas eu vraiment, parce que lui, justement, il a eu peur. Et puis, il m'a dit, ouais, c'est bon. Enfin, ouais, ça a l'air mieux. Mais le gars, je l'ai vu bouger comme ça. Mais c'était vraiment cool. Enfin, c'est un petit témoignage pour dire que c'est pas compliqué, quoi. Voilà. C'était j'ai à cœur aussi de prier pour ceux, peut-être, qui ont des maladies ici, ou qui ont des problèmes physiques, ou peu importe. Si vous recevez des paroles pour certains, commencez à prophétiser, etc. Comment? Ouais. Je vois que vous êtes vraiment un homme fort, un homme dur. Je vois comme une pierre, comme ça, qui est ancrée profondément dans le sol. Et une pierre, ça n'a pas de racines, mais je vois des racines sur cette pierre, vraiment, qui est solide. Et je pense que l'ennemi, il essaye de vous attaquer, il essaye de vous déstabiliser, mais il peut rien contre vous. Vous êtes fort, vous tenez à vous-même cette petite église qui est magnifique. Et continuez vraiment, je vous encourage vraiment, vous êtes une personne forte, je vois vraiment ça, avec votre costume gris, ça me fait vraiment, comme les dolmens, là, je sais pas si vous voyez ces pierres qui sont en Angleterre, là. Les grosses pierres, on sait pas d'où elles sont arrivées. Je vois vraiment que vous êtes cette pierre, comme ça, un énorme truc impossible à bouger, et Dieu, il vous bouge, quoi. Voilà.
Merci,
je crois que c'est tout.
Ouais, je pense que le Seigneur nous a bénis. Amen.
Amen.
Amen. On va prendre un moment, je pense, à la fin pour un petit peu prier les uns pour les autres, pour être proactifs dans nos dons spirituels, hein. J'aimais bien la parole de Marin qu'il faut expérimenter Dieu. On peut expérimenter le Père, Dieu le Père, et on voit la grandeur, le Dieu de l'univers qui est là, qui a toute autorité, qui a tout. On expérimente le Fils. On rencontre l'amour de Dieu, le fait que Dieu s'est fait humain, et puis on expérimente l'esprit, et il y a toute la puissance, l'héritage de Dieu qui nous est donné. C'est pas un hasard si Jésus, il a été se faire baptiser à 30 ans. À 30 ans, dans la culture juive, c'était le moment où tu recevais l'héritage de ton père. Tout le patrimoine était pour toi. Donc c'est un petit peu bizarre ici parce que ça arrive pas comme ça de nos jours, mais c'est genre, tout ce qui était à ton père, à l'époque, à 30 ans, il y avait une espèce de cérémonie, et ça devenait le tien. Et là, il y a eu exactement la même chose pour Jésus. Dieu, il lui a tout remis. Vraiment tout. Alors, Dieu nous a choisis pour son œuvre telle des vases d'argile. S'il y a bien une chose que je constate lorsque je parle des choses de Dieu dans les églises, c'est deux freins pratiques. Et on va finir par ça avant de passer un moment dans la prière. J'ai nommé, moi, ces deux choses, le ministère du découragement et de la honte. Qu'est-ce que c'est que ça? Ben, si Christ a choisi le ministère de l'amour, l'ennemi, lui, il a réussi à faire entrer dans nos églises des identités de découragement et de honte. On est appelé à vivre pour Christ avec tous les dons de celui-ci. Et ça dépend pas de nous pour être reçu. J'aime beaucoup ce que Marin nous a apporté comme témoignage, parce que c'est vraiment un encouragement pratique qu'il faut espérer les choses de l'esprit, il faut les expérimenter, il faut être proactif dedans. Je veux bien finir avec ce verset, ce chapitre dans 2 Corinthiens 4. Un trésor dans des vases d'argile. Ainsi, puisqu'il y a un tel ministère que Dieu nous a confié dans sa bonté, nous ne perdons pas courage. Nous rejetons les intrigues et les procédés indignes. Nous ne recourons pas à la ruse et nous ne falsifions pas la parole de Dieu. Au contraire, en faisant connaître la vérité, nous nous remettons devant Dieu au jugement de tout homme. On n'a pas besoin de faire des discours spéciaux ou d'être des super-héros, de faire des stratagèmes. La puissance de Dieu est là. Et si notre évangile demeure voilé, il ne l'est que pour ceux qui vont à la perdition. Pour les incrédules, le Dieu de ce monde a aveuglé leur esprit et les empêche ainsi de voir briller la lumière de la bonne nouvelle qui fait resplendir la gloire de Christ, lui qui est à l'image de Dieu. Ce n'est pas nous-mêmes que nous mettons en avant dans notre prédication, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Nous-mêmes, nous sommes vos serviteurs à cause de Jésus. En effet, le Dieu qui un jour a dit que la lumière brille du sein des ténèbres a a lui-même brillé dans notre cœur pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu qui rayonne dans le visage de Jésus-Christ. Ce trésor, nous le portons dans des vases d'argile que nous sommes pour que ce soit la puissance extraordinaire de Dieu qui se manifeste et non notre propre capacité. Ainsi, nous sommes accablés par toutes sortes de détresses et cependant jamais écrasés. Nous sommes désemparés, mais non désespérés. Persécutés, mais non abandonnés. Terrassés, mais non pas anéantis. Amen. L'endurance du chrétien, la ténacité, elle est là pourquoi ? Pas parce que, on n'est pas des bulldogs, c'est parce qu'il y a l'esprit en nous qui nous aide à tenir bon. Oui, nous portons toujours et en tout lieu dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit elle aussi rendue manifeste par notre corps. Sans cesse, nous qui vivons, nous sommes exposés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi rendue manifeste par notre corps mortel. Là, Paul y parlait à des gens qui on voulait prendre leur vie à cause qu'ils étaient chrétiens. Ainsi, la mort fait son œuvre en nous et la vie en vous. Nous sommes animés de ce même esprit de foi dont il est question dans cette parole. J'ai cru, voilà pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons et c'est pour cela que nous parlons. Nous savons en effet que Dieu, qui a ressuscité le Seigneur Jésus-Christ, nous ressuscitera aussi avec Jésus et nous fera apparaître avec vous en sa présence. Ainsi, tout ce que nous endurons, c'est à cause de vous, pour que la grâce abonde et atteigne des hommes toujours plus nombreux, et qu'ainsi augmente le nombre des prières de reconnaissance à la gloire de Dieu. Voilà pourquoi nous ne perdons pas courage. Et si même notre être extérieur se détériore peu à peu, intérieurement, nous sommes renouvelés de jour en jour. En effet, nos détresses présentes sont passagères et légères par rapport au poids insurpassable de gloire éternelle qu'elles nous préparent. Et nous ne portons pas notre ascension sur les choses visibles, mais sur les réalités encore invisibles, car les réalités visibles ne durent qu'un temps, mais les invisibles demeurent éternellement. La vérité sur ces choses qui habitent en nous, ce trésor, nous le portons dans des vases faits d'argile que nous sommes pour que ce soit la puissance extraordinaire de Dieu qui se manifeste et non pas notre propre capacité. Nous sommes des gens pour qui il était en fait impossible de réussir. Dieu nous a vraiment bénis et sauvés. Et il y a une tendance à se reconcentrer sur les choses en nous, mais Dieu nous oblige vraiment à fixer les yeux sur Jésus. Si tu te sens pas apte, si tu te sens condamné et honteux, c'est parce que l'ennemi est en train de te faire regarder toi-même. La loi, c'est regarder à toi. La grâce, c'est regarder à Jésus. Lorsque je parle de ces choses-là, il y a une réaction que j'ai souvent. Benjamin, attention! On doit rester digne, on peut pas faire n'importe quoi en tant que chrétien. Il y a la grâce, oui, mais il y a un comportement à avoir ensuite. Les gens, j'ai l'impression qu'ils ont peur qu'on fasse n'importe quoi. Mais évidemment, personne qui recherche les choses de l'Esprit de Dieu avec sincérité, il va vouloir cracher sur l'infinie bonté de la gloire de Dieu. Il veut toujours rester dans la bonté de sa grâce. Ce que je veux dire ici, c'est qu'on doit arrêter de ne rien faire, car on se sent pas digne. On doit arrêter de pas se sentir digne, parce qu'on est digne. On est digne de pouvoir prophétiser, on est digne de pouvoir guérir les malades, on est digne d'aller au travail, d'avoir des révélations sur les gens autour de nous, on est digne de pouvoir être quelqu'un d'influent dans notre cercle d'amis. Il y a quelque chose de spécial en nous, mais ça il faut se le rappeler tous les jours avec une communion avec l'Esprit. Alors, pour ceux peut-être qui n'ont jamais expérimenté le Saint-Esprit, on peut demander pour un baptême spécial dans l'Esprit. Pour ceux qui l'ont déjà reçu, on peut demander que Dieu, il nous aide à être plus proactifs dans ces choses-là. Si tu veux prophétiser, prie avec Dieu et demande des choses concrètes. Qu'est-ce que je peux dire à Pascal? Qu'est-ce que je peux dire pour l'encourager? Seigneur, viens me révéler des choses. On est devant notre Bible le matin. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse ici ce matin? Oh, prie pour Micheline. Prie pour Micheline. Ok, je vais prier pour Micheline, Seigneur. Seigneur, je prie que tu puisses l'encourager. Les paroles de révélation, l'Esprit va nous encourager à intercéder les uns pour les autres. Il y a une force incroyable qu'on n'utilise pas parfois à cause des circonstances de la vie parce qu'on regarde nous-mêmes et pas le Christ. Marie nous a encouragés à vraiment faire les choses de l'Esprit. Elles ne sont pas compliquées. C'est organique. Ça vient de notre relation avec Dieu. Alors j'aimerais prier. Je vais inviter tous ceux qui désirent devenir proactifs dans l'utilisation des dons à prier avec moi, avec ensemble. On va prendre un temps spécial pour des paroles prophétiques. Marie a dit qu'elle voulait prier aussi pour les gens. On va prendre un moment pour faire ça. Je vais peut-être demander à quelqu'un, c'est Camille ou Léa, pour un chant. Moi, j'ai envie vraiment qu'on puisse se connecter à la présence concrète de Dieu ce matin. Dieu, il est là, mais j'ai envie qu'on puisse s'encourager les uns les autres. J'ai envie de voir des choses extraordinaires arriver. Amen. Parce qu'on sert un Dieu extraordinaire. Alors évidemment, ça nous coûte parfois quelque chose, ça nous coûte qu'il faut se délaisser de toutes les choses du passé, hein, il faut un petit peu oublier les soucis, il faut un petit peu oublier les pressions, et il faut se concentrer sur Jésus. Jésus, qu'est-ce que tu veux me dire? Moi, je sais que Dieu, il va nous bénir à travers ça. Amen.